Bonsoir, comment allez-vous ? Je me suis rendu compte avec épouvante que je n'écoutais pas ce qu'on me disait. Par exemple, ma fille aînée me raconte qu'elle est allée au Cap Fréhel. J'enchaîne aussitôt sur la chanteuse Fréhel qui a choisi ce pseudo tatatatata. Du coup, ma fille abandonne le Cap et me parle de Dinan. Et je la recoupe à nouveau, à ne pas confondre avec Dinard où j'ai perdu mon chien. Je ne sais donc pas si elle a aimé, avec qui elle était, si elle va bien. Mais pourquoi ? Pour raconter des choses sans rapport avec la conversation et sans intérêt. Et ça marche dans l'autre sens. Une amie cherche un objet précis et me demande si je sais où elle pourrait le trouver. Le hasard me fait passer devant une vitrine où je vois son truc. Je l'appelle et lui dis « Tu sais, rue du Faubourg Saint-Antoine ?» Et hop, elle démarre. « Rue du Faubourg Saint-Antoine, j'y ai habité en arrivant à Paris, tatatatata. » Je n'ai jamais pu lui dire que j'avais vu sa machine là-bas. Pourquoi ne savons-nous pas fermer notre bouche et ouvrir nos oreilles? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que c'est partout comme ça? Si vous le savez, écrivez-le moi, sinon je ne vous écouterai pas.
Bonjour, je m'appelle Rachel. Je voudrais savoir pourquoi la girafe est muette. Ma fille, j'ai 3 ans et demi. Ma fille, au revoir.
Mais dis donc, Rachel, t'es pas en retard. 3 ans et demi, pourquoi la girafe est muette? Docteur Brice Lefaux, docteur vétérinaire et directeur du parc zoologique et botanique de Mulhouse. Alors, est-ce que c'est vrai d'abord?
Alors, Rachel, elle n'a pas encore eu l'occasion de les entendre. Mais elle n'est pas muette, la girafe. Elle émet des sons, sauf qu'elle ne l'utilise absolument pas pour communiquer entre eux. Donc, on ne les voit pas se parler. On ne les voit pas en train d'émettre des sons pour communiquer entre eux. On va entendre ces sons-là. Moi, je les ai entendus quand j'anesthésiais les girafes ou lorsque les girafes se couchent. On entend un son qui est comme un... On appelle ça humming en anglais. Et on pourrait... C'est fredonner en français, mais ça ne va pas très bien. C'est comme un son qui vient d'assez profond et qui fait comme un... Je fais même la girafe qui se couche.
D'accord.
Donc, ce son-là, il n'a aucune valeur de communication. C'est-à-dire qu'il ne veut rien dire.
C'est un souffle, peut-être, hein, comme un soupir.
C'est comme un soupir, voilà. C'est ça, comme un soupir. Et pour le savoir, en fait, on a étudié, justement, on a enregistré les girafes pendant des mois et des mois dans des parcs zoologiques, notamment nord-américains, et notamment les infrasons. Les infrasons, c'est des sons qu'on n'entend pas, nous, mais qui sont utilisés par les éléphants pour pouvoir communiquer entre eux. Donc, on se posait la question si les girafes avaient cette capacité-là d'utiliser des infrasons pour pouvoir communiquer entre elles. Et il se trouve que non. On a démontré qu'en fait, elles n'utilisaient pas d'infrasons et que donc la communication sonore, il n'y en a pas. Par contre, elles communiquent avec.
Et voilà, vous précédez ma question. Comment communiquent-elles?
Eh ben, elles communiquent. Elles font pas d'expression faciale comme le cheval ou les primates que nous sommes, mais elle va utiliser la posture de son corps. Est-ce que son échine, donc son cou, est très tendu? La position des oreilles, comme pour le cheval par exemple, qui va positionner ses oreilles différemment selon son état d'esprit. De même que chez la vache, c'est l'écarquillement de la pupille et de l'œil, c'est-à-dire s'il y a plus de blanc que l'on voit, c'est qu'il y a de la frayeur ou en tout cas qu'il y a un processus de crainte qui est en train de... Elle communique à la peur. Et puis le fait de le déplacement, donc elle va taper plus ou moins du pied si elle n'est pas contente ou les choses comme ça. Donc elle va communiquer avec ses congénères par sa posture et la façon d'orienter ses oreilles et de regarder.
Réponse à réécouter sur franceinter.fr. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Nous saurons ce soir si les hommes de Cro-Magnon savaient nager, pourquoi la peau bronze et d'où viennent les noms japonais des prises de judo. Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Oui, bonjour, c'est Benoît de Gratou. J'aimerais savoir si les grands chefs qui cuisinaient avant, par exemple pour Louis XVI, étaient des femmes ou des hommes? Bisous!
Bisous et bonsoir Benoît de Gratou. Alors c'est une question qui évidemment va à l'historien que vous êtes, Loïc Bienassi, historien à l'Institut Européen d'Histoire et des Cultures de l'Alimentation et vous êtes basé à l'Université de Tours. Si Benoît est à Gratou, vous êtes à Tours.
Tout à fait.
Alors c'est intéressant cette histoire quand même, si les grands chefs qui cuisinaient avant étaient des femmes ou des hommes.
Alors bonsoir Benoît, l'avantage c'est qu'il est très simple d'y répondre, c'était des hommes.
Ah ouais.
C'était des hommes, pas de femmes en cuisine. D'accord. Pas de femmes. Tous les chefs qu'on connaît, par exemple, les grands ouvrages de cuisine qu'on connaît, l'un des grands ouvrages fondateurs de la cuisine française, Le cuisinier français, par Lavarenne, qui est publié en 1651. Ben voilà, Lavarenne, un homme qui servait chez le marquis d'Uxelles. Donc voilà, on peut énumérer comme ça tous les ouvrages par Massialo, tous les grands chefs du XVIIIe siècle, La Chapelle, Vincent La Chapelle, enfin tous des hommes. les femmes, si elles servaient la cuisine, c'était dans les gargotes, les petites auberges, mais certainement pas dans la cuisine aristocratique, la grande cuisine, ça ne fait aucun doute.
Donc, ni au service, les femmes, ni à la communication, parce qu'elles n'ont pas écrit d'ouvrage, mais ni même en cuisine.
Non, vraiment pas. Là, on parle encore une fois de la cuisine, vraiment de la haute cuisine, de la gastronomie de cour. Là, il n'y avait pas de femmes présentes.
On ne parle pas des agricultrices dans leur famille.
Non. Mais du coup, c'est une caractéristique qui dure jusqu'à aujourd'hui. C'est clair. Les grands chefs du 19e siècle, c'est des Beauvilliers, Carême, Escoffier. Escoffier, 20e siècle. Tous les noms, Urbain Dubois, Jules Gouffet, tous les noms qu'on peut égrener, ce ne sont que des hommes. Et on arrive aujourd'hui, par exemple, le guide Michelin, il n'y a qu'une femme, 3 étoiles, Anne-Sophie Pic. Voilà, c'est donc une constante.
Alors ça, c'est pas de peau, parce que je me suis dit pendant que vous parliez, je vais rajouter une femme que j'ai trouvée dans votre livre, Le repas gastronomique des Français, édité chez Gallimard, que vous avez dirigé. Je vais rajouter Anne-Sophie Pic, mais comme vous venez de la citer, ça rajoute pas.
Non, mais justement, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Alors, il y a quand même une grande exception dans la gastronomie française, ce qu'on appelle les mères lyonnaises. Finalement, il y a les mères, d'ailleurs, même, j'ai envie de dire, si on connaît des noms de chefs un peu historiques, de femmes chefs, il y a la mère Poulard, et il y a les mères lyonnaises. Au Mont-Saint-Michel, en effet, avec sa fameuse omelette. Et il y a les mères lyonnaises. Les mères lyonnaises, c'est une tradition qui remonte au 18e siècle, à toute fin du 18e siècle. La première aurait été la mère Guy. On sait pas grand-chose sur elle. Et surtout, à partir de la fin du 19e siècle, une autre mère Guy, d'ailleurs, qui déjà accueillait, par exemple, l'impératrice Eugénie, qui est l'épouse de Napoléon III, dans son établissement à Lyon. Donc il y a eu cette tradition très lyonnaise des mères, la plus connue étant la mère Brasier, qui, lorsqu'il y a eu les premières 3 étoiles par le guide Michelin en 1933, a eu 2 fois 3 étoiles pour 2 de ses établissements. Son établissement à Lyon et son établissement du col de la Loire, qui est à quelques kilomètres de Lyon. Donc c'est un peu la grande cuisinière du XXe siècle. Mais clairement, la haute gastronomie encore aujourd'hui reste quand même un domaine, une chasse gardée, très masculine.
Êtes-vous déjà allé dîner ou déjeuner dans un restaurant 3 étoiles? Oui, moi non plus. Alors, sur 27 restaurants qui ont 3 étoiles, un seul est dirigé par une femme, Anne-Sophie Pic, dont nous parlions il y a un instant, à Valence, à ne pas confondre avec Anne-Sophie Lapix, qui présente le journal de 20h sur France 2.
Un peu de beauté plaît.
Amoureux solitaire par Lio, un style qui revient complètement à la mode.
Les petits bateaux sur France Inter.
Peut-être cet été avez-vous appris à nager. On apprend en général aux enfants à nager la brasse, qui est pourtant, à mon avis, la nage de loin la plus difficile.
Bonjour, je m'appelle Arthur, j'ai 8 ans, je voudrais savoir si les hommes de Cro-Magnon savaient nager. Merci.
Mais oui, c'est vrai ça. Bonsoir Arthur. Cyril Coutancet, les hommes de Cro-Magnon savaient-ils nager? Le savez-vous seulement?
Alors maintenant on le sait, en fait. Oui, il savait nager Arthur, et non seulement il savait nager, mais il savait naviguer. Ça, c'est quelque chose qu'on a découvert assez récemment. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier moyen de locomotion inventé par l'homme, pendant longtemps on a cru que c'était la roue, et donc qui permettait de faire des chariots. En fait, le premier moyen de locomotion inventé par l'homme, ça a été le bateau.
Ah.
Pendant très longtemps, en fait, on pensait que les hommes de Cro-Magnon, les hommes préhistoriques, pour faire simple, avaient peuplé l'ensemble des terres et des continents de notre belle planète bleue à pied. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de ces hommes préhistoriques, le niveau des océans avait baissé. Et donc, on avait imaginé qu'ils avaient peuplé l'Australie, tous ces coins-là,
à pied. À marée basse, comme on dit, oui.
Sauf qu'en fait, c'était difficilement possible parce qu'il y avait des endroits où la mer était encore présente. Et surtout, on ne voyait pas la terre qui était de l'autre côté. Quand on était sur la plage, on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait une terre en face. Et donc, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Et en retrouvant justement des restes d'hommes de Néandertal, par exemple, en Crète, donc cette île qui est au centre de la Méditerranée, et puis en retrouvant des restes aussi d'hommes préhistoriques sur l'île de Flores, dans des tas de zones comme ça, on s'est aperçu qu'en fait, ces îles-là étaient peuplées depuis assez longtemps et qu'elles n'avaient pu être peuplées que par la mer. Alors, on a inventé aussi, pour expliquer ces peuplements, quand on a découvert ça, toute une série de théories un peu folkloriques en disant que elles avaient été peuplées tout simplement parce qu'un homme préhistorique avec sa femme, éventuellement son enfant, était accroché à une branche d'arbre et puis qu'il y avait une tempête et puis que la tempête, elle avait entraîné la branche d'arbre avec ses hommes préhistoriques sur cette île et puis que comme ça, cette île s'était peuplée.
Le hasard.
Sous le hasard. Sauf qu'évidemment, c'était pas possible et qu'il a bien fallu se rendre à l'évidence, c'est que ces hommes préhistoriques étaient capables de faire des bateaux, était capable d'aller sur l'eau, était capable de pêcher, maintenant dans la certitude aussi, était capable d'élever des poissons, on le sait aussi, et était capable de partir en mer en emmenant de la nourriture aussi sur leur bateau pour aller voir ce qu'il y avait au-delà de l'horizon. Parce que je crois surtout que ce qu'on a découvert, c'est que ce qu'il y a au cœur de l'être humain, c'est aussi d'aller voir toujours un peu plus loin, c'est d'aller découvrir, c'est d'aller explorer. Et ces hommes préhistoriques, ils avaient ça en eux. C'est-à-dire que quand ils étaient au bord de la mer, comme toi quand tu es au bord de la mer l'été, eh ben, ils se disaient, mais là on voit l'horizon, on voit la mer, et qu'est-ce qu'il y a derrière la mer? Et ils se disaient, qu'est-ce qu'il y a derrière la mer? Et puis après ils se disaient, ben on va faire un bateau, et on va aller voir ce qu'il y a derrière la mer. Et ça, c'est au cœur de l'être humain, il y a toujours cette soif de découverte, de voir ce qu'il y a de l'autre côté de l'horizon.
Cyril Coutancet a écrit « La mer, nouvelle Eldorado », édité à la Documentation française. Le principe des petits bateaux, c'est de passer du coq à l'âne ou de la mer au tatami.
Bonjour, je m'appelle Jérémy et j'ai 17 ans. J'aimerais savoir comment font les judokas pour se souvenir du nom des prises de judo alors qu'elles sont incompréhensibles. Au revoir.
Incompréhensible et imprononçable, Jérémy. Alors ça, c'est vrai. Comment font les judokas pour se souvenir des noms des prises de judo? Alors Frédéric Lecanu, ancien judoka.
C'est vrai que c'est pas facile.
C'est dur. Alors comment vous avez fait?
Alors comment on fait? Eh bien déjà, c'est vrai qu'en France, on commence le judo vers 6, 7, 8 ans.
Tout.
Et c'est un petit peu l'âge d'or des acquisitions. Donc c'est un âge où on apprend vite et facilement. Alors bien évidemment, ça permet d'apprendre ces fameux noms japonais. Et puis derrière, c'est vrai qu'aussi, on a des outils. La Fédération Française de Judo propose de nombreux outils qui permettent, grâce à un passeport par exemple, d'avoir des petits documents, on peut se remémorer l'ensemble des choses. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre derrière ces mots japonais, c'est la signification. Quand je vous parle de O-Uchigari, c'est un grand fauchage intérieur. Alors vous avez l'impression que je parle chinois, or c'est du japonais, mais c'est très simple. O c'est grand et Uchigari, fauchage intérieur.
Donc comme toujours, pour retenir, il faut comprendre.
Pour retenir, il faut comprendre. Donc ensuite, quand vous comprenez tout ça, eh bien en fait, c'est très simple. Ainsi, les baguettes en japonais, ça se dit hachi, et ça se dit aussi hachi, donc pour les jambes. Et forcément, de baguette, ça forme de jambes. Donc vous voyez, on parle japonais sans le savoir.
Frédéric Lecanu a été champion de France de judo. Il a même battu Teddy Riner. Bon, Teddy était petit, enfin petit, 2m4. Il avait 16 ans, disons, et notre Frédéric Lecanu peut-être 25.
Casio, playing on my heart just like a Casio, breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't real. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're nerdy, that's not original. Cynical, alright, let's go now.
C'était Casio, extrait de la playlist de France Inter.
Bonjour, je m'appelle Damien, j'ai 7 ans. Je voudrais savoir pourquoi la peau bronze. Merci.
Bonsoir Damien, nous avons proposé ta question, Damien, à un médecin de la peau, docteur Nina Ross. Vous êtes dermatologue, vous êtes aussi écrivain. Le dernier de vos livres est édité chez First, il s'appelle tout simplement La peau et le précédent s'appelle La peau de mon ado, ce que tu sauras bientôt, Damien, édité chez Solar. Pourquoi la peau bronze, demande Damien ?
Bonjour Damien. Alors pour comprendre pourquoi la peau bronze, il faut comprendre quelles sont les cellules qui dans la peau provoquent le bronzage. Notre peau, elle est faite de plusieurs couches et la couche la plus externe, c'est l'épiderme. C'est un empilement de cellules et parmi ces cellules, il y a des mélanocytes qui sont des cellules qui vont fabriquer le pigment qui donne la couleur à la peau. On peut avoir un pigment un petit peu clair, jaune-rouge, et il y a des gens qui fabriquent des pigments un peu plus bruns. Et c'est ce pigment qui va être responsable du bronzage. En fait, ce qui se passe quand on se met au soleil, c'est qu'on reçoit divers types de rayons du soleil, les UVA, les UVB, les infrarouges et plein d'autres rayons. Mais en fait, ce sont les UVA qui vont déclencher la réaction de pigmentation de la part des mélanocytes. C'est-à-dire que nos mélanocytes, ils reçoivent des UVA.
Le mélanocyte, qu'est-ce que c'est le mélanocyte ?
Le mélanocyte, c'est dans l'épiderme, la cellule qui fabrique le pigment, qui donne sa couleur à la peau. Et quand on reçoit des UVA sur notre épiderme, eh bien le mélanocyte il va fabriquer un peu plus de pigments. Et si on reçoit des UVA régulièrement, les mélanocytes vont envoyer les pigments vers les couches les plus superficielles de la peau. Si bien qu'on va avoir plus de pigments et sur une épaisseur plus importante, ce qui va faire un écran de pigments qui freine la pénétration des UV, des UVA et des UVB, jusqu'aux cellules de la couche basale de l'épiderme. Alors le bronzage, c'est un mécanisme de défense de la peau, en fait. C'est pas un mécanisme qui engendre quelque chose qui est lié à la beauté. Notre peau, elle reçoit des UV, des rayons qui vont l'agresser, qui peuvent provoquer des dégâts dans l'ADN, dans le noyau des cellules. Et elle va donc répondre en se protégeant, en fabriquant cette espèce de petit mur de pigments, cette coloration qui va freiner la progression des UV.
Un petit peu comme si on tirait un rideau quand il y a du soleil pour pas être ébloui.
Exactement.
Ou que les tableaux soient pâles ou quelque chose.
Exactement. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne va bronzer que sous l'action des UVA, pas des UVB.
Mais comment on peut savoir ?
On peut pas le savoir. En revanche, il y a quelque chose qu'on faisait à une époque qui n'est pas recommandé aujourd'hui par les dermatos, qui était de dire, entre guillemets, on va préparer sa peau au soleil en allant faire des UV en cabine. Donc ce sont toujours des UVA. C'est pas un mode de protection efficace de la peau, d'abord parce que dans les premières heures ou les premiers jours qui suivent ces UV en cabine, en fait, on a surtout un virage de teinte de la mélanine qui s'oxyde, un peu comme si on avait laissé une pomme ouverte sur une table. Donc en fait, elle change de couleur, mais il n'y a pas plus de pigments protecteurs. Et lorsque enfin s'enclenche cette réaction de fabrication du pigment, c'est entre guillemets qu'il est déjà trop tard. C'est-à-dire que notre peau, elle a déjà subi un stress qui va l'obliger à se défendre. Donc il faut surtout pas aller faire des UV en cabine si on veut se protéger du soleil en se disant « mon bronzage va me permettre de m'exposer plus longtemps cet été, ce serait une erreur ».
Il y a faux et vrai bronzage. Foncé n'est pas synonyme de vrai bronzage.
Voilà, si je veux me protéger du cancer de la peau et du vieillissement prématuré, l'idéal ce serait de se protéger avec des vêtements et des crèmes solaires.
Alors moi je pense aux crèmes où on bronze sans soleil.
Autobronzants.
Les autobronzants, ça protège pas alors?
Les autobronzants ne protègent absolument pas des dégâts induits par les UVA ou les UVB.
Docteur Nina Rousse, est-ce que quelqu'un qui a une peau noire peut attraper un coup de soleil du coup?
On n'a pas tous la même capacité à bronzer. On définit en dermatologie des phototypes qui sont comment notre peau réagit face au soleil et en fonction de sa couleur naturelle, ces phototypes ils vont de 1 à 6. 1, c'est les gens qui vont être roux, qui ne bronzent pas, ils prennent que des coups de soleil. 6, ce sont les phototypes peau très foncée, des gens qui bronzent très facilement et prennent peu de coups de soleil. Mais même en ayant une peau extrêmement foncée, on peut prendre des coups de soleil. Bien sûr, pas pour le même temps d'exposition que quelqu'un qui a la peau pâle, mais on peut.
Voilà, ces petits bateaux sont terminés. Vous pouvez les réécouter ou les podcaster par franceinter.fr. Et pour communiquer avec nous, vous pouvez aller sur notre site. Stéphane Boja, Marjorie Devoucou, Jean-Baptiste Audibert, Eliane Girard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à partir de 19h30 et nous vous laissons avec Denis Chessou pour la Tulu.